franceinter.fr.
Les enfants et leur formidable capacité de récupération, aujourd'hui à la une de la science.
Hey, on se calme, on se tait, s'il vous plaît. Putain, mais faut vous calmer, hein. Faut vous calmer, parce que ça va pas le faire.
Mais ils dorment quand même parfois, non?
Jamais, malheureusement.
Parce qu'il y a des techniques, tu savais ça?
Les somnifères, j'y ai pensé aussi, mais...
Pas du tout. Faut les sortir, faut qu'ils se dépensent, faut emmène-les au parc. Le parc.
Voilà, extrait du film Daddy Cool et les enfants avec leur métabolisme comparable à celui des athlètes de haut niveau. C'est ce qui ressort en tout cas en substance d'une étude réalisée par une équipe franco-australienne. Et on en parle à la une de la science avec notre invitée Caroline Tourbe.
Oui, aujourd'hui nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Pays d'Auvergne avec Sébastien Ratel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne et vous avez dirigé cette étude qui a été menée sur des enfants de 8 à 12 ans. Mais comment vous est venue l'idée à vous de comparer l'endurance des plus jeunes avec celle d'athlètes adultes ?
Alors au sein de l'équipe, on travaille depuis quelques années sur la récupération de l'enfant et sur sa fatigabilité au cours de l'exercice, et notamment au cours des exercices de haute intensité. Et on a montré à plusieurs reprises, même s'il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, on a montré que les enfants se fatiguent beaucoup moins vite et plus faiblement que les adultes non entraînés. Et on s'est demandé qu'est-ce que à l'enfant dans le ventre, en fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire si on le compare à des athlètes adultes très bien entraînés en endurance, qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser au cours des efforts intensifs, comment ils se fatiguent et comment ils récupèrent par rapport à eux.
Et donc vous avez mis en place une expérience, vous pouvez nous en donner un petit peu le déroulé ?
Vous les avez comparés avec de vrais athlètes ou pas ?
Complètement, on a comparé ces jeunes de 8-12 ans, des garçons qui pratiquent moins de 4 heures d'activité physique par semaine. On les a comparés à des athlètes très bien entraînés en endurance, puisqu'ils pratiquaient plus de 6 séances d'entraînement par semaine avec un gros volume horaire hebdomadaire, des triathlètes, des cyclistes, des coureurs à pied de longue distance. Et puis on les a comparés aussi à des adultes non entraînés. Et donc on leur a proposé de réaliser un sprint assez intensif de 30 secondes. On a évalué la récupération, donc on a mesuré de nombreux paramètres physiologiques allant de la puissance à la fréquence cardiaque, à l'acide lactique, au lactate que l'on retrouve dans le sang, et puis la consommation d'oxygène.
Et donc quand vous avez eu ces résultats, vous avez été assez surpris par un point, notamment les capacités de récupération, c'est ça, des enfants ?
Exactement. Donc on a montré que les enfants prépubères, ils sont métaboliquement comparables à des athlètes entraînés en endurance. Donc ils se fatiguent aussi vite que ces athlètes-là. Mais ce qui nous a surpris notamment, c'est leur faculté de récupération, parce que on s'attendait à ce que les athlètes endurants récupéreraient beaucoup plus vite. Et c'est pas le cas. Les enfants récupèrent même plus vite que les athlètes endurants. Et lorsqu'on regarde la baisse de la fréquence cardiaque au cours de la récupération, cette baisse, elle est très très rapide chez les enfants par rapport aux athlètes. Et au-delà de ça, les enfants sont capables d'éliminer certains déchets métaboliques tels que le lactate, ils sont capables de l'éliminer beaucoup plus vite. Et donc le fait d'éliminer plus rapidement ce lactate, ça permet de retarder l'apparition de la fatigue et de récupérer beaucoup plus vite.
Et comment on explique alors cette capacité de récupération très rapide chez les enfants? C'est les 8-12 ans qui ont été étudiés dans le travail, c'est ça?
Exactement, ce sont des enfants prépubères, donc des garçons avant leur pic de croissance. Donc les enfants étant plus petits, finalement, ils utilisent majoritairement leur filière aérobie, leur métabolisme aérobie, celui que le muscle utilise à partir de l'oxygène, en présence de l'oxygène. Et donc l'enfant utilise majoritairement cette filière énergétique au détriment des filières anaérobies, celles qui fonctionnent sans oxygène et qui produisent des déchets métaboliques à l'origine de la fatigue. Donc l'enfant, quelque part, il accumule moins de déchets métaboliques qui perturbent la contraction musculaire.
Il a d'ailleurs une structure du muscle qui est différente aussi. C'est différent, le muscle d'un enfant et le muscle d'un adulte.
Exactement. Donc si dans un muscle, vous avez différents types de fibres musculaires, vous avez des fibres de type lente, à contraction lente, qui elles produisent peu de force, mais qui sont très résistantes à la fatigue. Et vous avez des fibres rapides qui sont plus puissantes, mais qui se fatiguent très vite. Et c'est vrai que les enfants ont une structure musculaire qui a une proportion élevée en fibres lentes, très oxydatives, très aérobies et très résistantes à la fatigue. C'est la particularité de l'enfant.
Et vous l'avez évoqué, la puberté, c'est un moment clé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement physiologique, un changement de l'état même musculaire de l'enfant.
Exactement. Donc, au moment de la puberté, vous avez une baisse, une transformation de ces fibres lentes en fibres rapides, et vous avez une capacité aérobie du muscle qui diminue au moment de la puberté. Et donc, c'est vrai que lorsque l'enfant devient adolescent, donc chez le garçon à partir de 14-15 ans, ou chez la fille à partir de 11-12 ans, vous avez une transformation physiologique qui fait que l'adolescent va plus vite se fatiguer et moins bien récupérer.
Donc le côté un peu lymphatique de l'adolescent, c'est naturellement un changement musculaire aussi. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce qu'il vous semble que c'est important de prendre en compte ce changement physiologique musculaire pour conseiller une activité physique ?
Au moment de l'adolescence, il est essentiel de préserver cette capacité aérobie du muscle, sa capacité à résister à la fatigue. Donc on a tout intérêt en tant que professeur d'éducation physique ou entraîneur, éducateur sportif, de proposer des programmes d'endurance pour maintenir la capacité aérobie du muscle et sa capacité à résister à la fatigue. Et avant cette puberté, il est nécessaire chez l'enfant, non pas de développer l'endurance métabolique, aérobie, parce qu'il est déjà très endurant, il est comparable à l'athlète de haut niveau, vaut mieux se consacrer à développer des qualités physiques telles que la coordination, l'équilibre, l'agilité, et développer plutôt la motricité chez le jeune enfant.
Roger Teboul, vous qui êtes pédopsychiatre, très intéressant quand même, hein, cette étude, pour comprendre, oui, comment fonctionnent les plus petits.
Passionnant. Et puis, moi qui m'occupe aussi d'adolescents et de cette période particulière.
Mais bien sûr.
La puberté, je trouve que c'est aussi intéressant de se rendre compte que tout finalement se coordonne, ce qu'on peut penser du travail psychique et ce qui se passe aussi physiologiquement et biologiquement. Donc oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des considérations cliniques qui ont des substrats somatiques qui sont pertinents.
Une dernière petite question, Sébastien Ratel. Est-ce que vous avez donné les résultats aux athlètes qui étaient enrôlés dans votre étude ? Vous leur avez dit que les petits-enfants qui étaient avec eux,
les avez battus
à plat de couture ?
Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de faire un retour sur les athlètes, mais quand ils vont apprendre la nouvelle, je ne sais pas comment ils vont réagir.
Ils vont vouloir retomber en enfance, certainement, pour aller plus vite.
Mais probablement.
Ce serait intéressant de comprendre exactement les mécanismes, peut-être pour ralentir aussi des processus de fatigue ou de vieillissement, non, Sébastien Ratel ?
Oui, je pense que de toute manière, tout au long de la vie, il est essentiel de préserver cette capacité d'endurance, cette capacité aérobie, puisque c'est un facteur de santé. On sait très bien que l'endurance métabolique, l'endurance du muscle, est associée aussi à la prévalence des pathologies métaboliques que l'on connaît tous, le diabète de type 1, de type 2, l'insulinorésistance, les pathologies cardiovasculaires. Donc il faut tout au long de la vie entretenir cette capacité musculaire à résister à la fatigue, à bien récupérer.
Roger Teboul, une dernière réaction ?
À la vie, c'est une course de fond, je suis tout à fait d'accord.
C'est la conclusion que vous lui apportez à cette étude.
Je suis tout à fait d'accord.
Absolument.
Il faut penser long terme.
Ouais. Sébastien Ratel, vous avez travaillé avec des Australiens, ils se sont posés les mêmes questions que vous sur ce sujet ?
En fait, il y a deux ans, j'ai eu l'occasion de rester 6 mois en Australie, et donc on a commencé à développer cette thématique et à penser finalement à comparer les enfants prépubères à des athlètes de haut niveau. Et donc du coup, cette étude réalisée ici en France à Clermont-Ferrand, c'est dans la continuité ce que j'ai entrepris lors de mon séjour en Australie avec l'équipe australienne.
Merci beaucoup. En tout cas, très intéressant cette étude, Caroline Tourbe. On se retrouve demain avec une nouvelle une. Et merci à vous, Sébastien Ratel, aux équipes de France Bleu Pays d'Auvergne. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Non, les pôles magnétiques terrestres ne vont pas s'inverser. Alors évidemment, dans l'histoire géologique de la Terre, il y a bien eu de telles inversions, mais les scientifiques le savent grâce à l'étude des roches et des sédiments. Et là, contrairement à une théorie en vogue actuellement, basée sur une anomalie du champ magnétique de la Terre dans l'Atlantique Sud, nous ne sommes pas en train de vivre une période de transition vers une inversion des pôles. Dans une nouvelle étude, des chercheurs californiens se sont penchés sur des anomalies passées comparables à celles observées actuellement dans l'Atlantique Sud. Et après analyse des données paléomagnétiques, ils sont catégoriques, ces anomalies ne sont pas des signes précurseurs d'une inversion imminente. Les moustiques mordent quand ils ont soif. Des biologistes de l'université de Cincinnati ont découvert que les moustiques femelles piquaient non seulement pour produire leurs œufs, mais aussi pour étancher leur soif. Pour les besoins de l'étude, les insectes ont été maintenus en condition de sécheresse. Résultat, ils sont devenus particulièrement agressifs avec les humains. Ce comportement n'avait jamais été mesuré auparavant. On pensait même que les périodes de grande sécheresse étaient plutôt liées à une diminution des piqûres de moustiques et de la transmission des maladies comme le paludisme ou la dengue. Et puis des paléontologues et des préhistoriens en colère dans la presse cette semaine. Une tribune publiée dans Le Monde hier alerte sur les risques d'épandage de polluants sur des sites archéologiques du département du Lot. C'est le développement de méthaniseurs industriels qui inquiète ces scientifiques. Ces installations vont produire en effet des lisiers qui seront épandus sur des milliers d'hectares au cœur d'une zone calcaire. Or, selon les chercheurs, les polluants contenus dans ces lisiers pourraient détériorer les sites préhistoriques et archéologiques qui abondent près de la surface dans cette région. Les signataires de cette tribune demandent également que des études d'impact soient réalisées autour des grottes ornées pour s'assurer que le périmètre de protection soit suffisant.